Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les tontons.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh, merde.
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingue.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Ouais, la France est un des seuls pays à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire, mais quand même, toutes les civilisations ne se valent pas. Bonjour Jean,
salut
Marie.
Bonjour Gilles, et bon anniversaire.
Oh non,
bon anniversaire,
ils sont mignons, je vous aime. Salut, et puis salut à vous auditrices, auditeurs, en ce jeudi matin où on se les pèle, mais sévère, il est toujours que 10h01, si vous êtes bien réveillé, que vous êtes en canne. Vous pouvez donc nous appeler jusqu'à 11h sans le moindre problème au 05 65 49 29 80. Vous connaissez désormais le numéro. On en profite pour remercier tout de suite Chloé avant d'oublier derrière la vitre qui nous fait la tech aujourd'hui. Le sujet, on est arrivé au studio ce matin avec une envie de ne rien faire. Je pense qu'on est pas mal dans ce cadre-là, dès qu'il caille et qu'il faut sortir du lit. Donc nous avons les mains dans les poches, il fait très froid. Et on va vous parler, bon c'est pas, on en reparlera dans une heure.
La semaine dernière, on voulait pas, on s'en est moqué, on se dit ouais c'est quoi l'actualité. Ou c'était il y a deux semaines, ouais. Il fait froid. Ouais, bah là non, ça fait chier quand même.
Ça fait plus rire.
Hein.
Donc on fait une heure sur la météo.
Voilà, une heure sur la météo, allez c'est parti.
Non, en réalité oui, bon, on n'a pas trop envie de vous parler de la politique, de la campagne. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on est à peu près tous pareils, ça nous gave de plus en plus. De toute manière, les mecs ils nous créent des événements avec rien, c'est-à-dire que tous les jours il y a un événement, mais en réalité quand on analyse bien le problème, si on était parti de chez nous et qu'on rallume la télé au bout d'une semaine, on se rendrait compte qu'il ne s'est strictement rien passé.
On
n'a rien raté, il ne s'est rien passé, donc on va les laisser s'étriper entre eux. Et nous, on va revenir au sujet que nous avons mis en œuvre, on va dire, la semaine dernière. Écologie, environnement, c'est un petit peu large comme concept, mais surtout énergie, comment les utiliser aujourd'hui et demain, comment peut-être tendre, si c'est possible, vers l'autonomie. Et évidemment, il ne peut y avoir que des frustrations après, je dirais, la petite mise en bouche que nous avons fait la semaine dernière. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec les mêmes invités. On remercie énormément Jean d'être venu pour nous faire part de son expérience sur le sujet, puisqu'il travaille,
si je peux,
d'une façon quotidienne au développement de concepts justement, on va dire alternatifs, et Dieu sait que c'est pas facile aujourd'hui. Marie, qui a aussi une certaine compétence sur le sujet, puisque toi, bon bah ton cheval de bataille, je dirais, que ce soit à titre perso ou à titre on va dire plus idéologique, tu as des engagements aussi qui touchent directement aux problèmes énergétiques, que ce soit dans le choix d'une construction ou dans des combats.
J'ai surtout beaucoup de questions et d'horrifications, mais très peu de réponses.
Non, mais tu as fait des choses, là on va vite s'en rendre compte. Tu as fait des choix, tu as tenté des trucs qui sont extrêmement, à mon avis, extrêmement intéressants pour les auditrices et les auditeurs. Et moi, j'ai la chance d'avoir effectivement aussi eu à étudier les démarches, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, où est-ce qu'on peut faire des économies d'énergie lors de la construction de mon habitat, de ma maison. Donc voilà, avec notre petite expérience de citoyen, on va vous encourager très très fort, si vous-même êtes en train de tenter des choses ou avez des questions, nous appeler sans hésiter, et on essayera d'en parler ensemble. Mmh. Voilà, alors tout de suite, petite remise en contexte très rapide. Voilà, on avait fait un petit tour, on avait dit, bon, les énergies, c'est bien beau, ça nous pénalise complètement. Curieusement, dans la campagne électorale, à part Eva Joly, bon, personne ne parle de ça. On se rend compte que sur le nucléaire, c'est toujours l'omerta. On se rend compte qu'il est hors de question de remettre un certain nombre de choix. Tous les jours, il y a des pics de pollution, des pics de consommation électrique absolument faramineux, hallucinants, qui nous coûtent la peau des fesses. On continue de parler de consommation. Pendant ce temps-là, on continue de flamber de l'énergie en éclairant les Champs-Élysées, les villes la nuit, en flambant un maximum de... On chauffe les terrains de sport.
On chauffe les terrains
de foot et de rugby pour que les mecs puissent ne pas se faire mal à leurs petits genoux, les milliardaires en chaussettes là. Donc grosso modo, on est dans le scandale absolu, et pendant ce temps-là, le particulier, lui, il voit la facture qui se multiplie, il trinque, il en prend plein la tête, 15% d'augmentation par an, et il se caille en plus. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il est urgent, on en était resté là la semaine dernière, urgent d'essayer de trouver des solutions, des alternatives. Et évidemment, les alternatives, on va pas refaire le débat, les alternatives du monde industriel, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les alternatives individuelles et les accès possibles potentiel pour le citoyen que les citoyens de base que nous sommes à d'autres choix que d'être condamné à payer déjà la moitié de sa facture en abonnement tous les ans, que ce soit sur le gaz, sur l'électricité, ainsi de suite. Mmh. À vous tout de suite la parole. Jean, toi, ton truc, c'est le mari.
Tu as dit que tu as oublié de dire quelque chose d'important parce que tu as parlé d'économie.
Sûrement.
Oui, comme d'habitude.
J'ai oublié plein de trucs encore.
C'est bien aujourd'hui, comme il n'est pas très en forme, on va pouvoir un peu
l'attaquer.
Vas-y,
je finis mon café, attaque.
C'est pas son anniversaire, c'est sa fête.
C'est sa fête.
Ziava.
Et donc, à travers les économies, c'est surtout pouvoir choisir, parce que quand tu te branches, si tu n'es pas autonome, tu te branches sur EDF, tu vas pas choisir le mode de production. Et donc, c'est là où ça devient aussi écolo, non seulement faire des économies d'énergie, mais choisir ton mode de production.
Ouais, on va y revenir, c'est intéressant.
Non, mais voilà, je voulais dire en gros.
Non, mais c'est complet, c'est pas.
D'être autonome, parce que c'est pas.
Ça commence par avoir le choix.
Oui,
marche, elle est là, hein, si t'as le choix.
Après, on va y revenir, mais on verra très vite que le choix, il est quand même aujourd'hui directement rattaché à des questions économiques. Je suis désolé pour pas mal de
pas
gens.
Pas uniquement.
Non, mais des gens qui payent trop cher leur énergie et qui disent, bon, faut trouver autre chose parce qu'on en peut plus, on est asphyxié. Quand on a payé le loyer et les factures d'énergie, on se retrouve à poil pour les trois quarts des gens.
C'est le premier déclic, je pense. Mais bon, après, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Il y a une espèce d'élévation de conscience qui va te permettre de te poser des bonnes questions pour éventuellement monter un projet.
Ce que certains appellent un changement de logiciel à l'échelle politique, c'est-à-dire un changement complet de conception de la vie et de la manière de dépenser. Ouais.
Ce que je trouve dommage, c'est que ce premier déclic, il soit toujours financier. Tu vois,
on peut toujours philosopher, mais on s'en fout. Dans le sens où le principal, c'est le résultat.
Toujours financier.
Non, mais comme dit Gilles, souvent quand même.
Souvent, c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup de gens aussi qui le font.
Quand tu as des démarches, mais uniquement par nécessité.
Quand tu es à 1000 euros par mois, que tu payes 500 euros de loyer, que tu te retrouves avec 250 euros d'EDF, c'est à peu près ce que ça coûte tous les deux mois aujourd'hui pour chauffer avec un chauffage électrique de merde. Mmh. Ce qui soulèvera d'ailleurs la question du choix qu'on a fait de foutre dans les nouveaux logements ces dernières années de l'électrique partout, comme pour justifier pour la prolongation de la filière nucléaire.
Ça
aussi, il va falloir en parler, c'est une catastrophe, mais ça, c'est le côté industriel, c'est pas encore forcément l'objectif aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, les solutions individuelles, Jean, donc toi, je disais, tu es spécialisé plus sur la partie flotte. Ouais. Alors, l'eau, c'est quand même un gros problème. Pareil, là, on peut pas ne aborder ce sujet sans mettre un minimum en contexte. Mmh. La flotte, tout le monde sait ce que ça coûte. On doit être aux environs de 4 euros le mètre cube à...
Un peu plus, 5,05.
5,05 à Saint-Afrique.
Ouais. Bon, c'est Saint-Afrique. Après, tu as d'autres villages.
C'est très cher.
D'autres villages, d'autres communes, si tu veux, où tu as un prix qui dégringole.
Saint-Paul, à 15 minutes, on est bien en dessous de ça, heureusement.
Oui, je connais des villages où ils sont à 1 euro à peine. Quoi.
C'est ça.
Il me semble que cette année, nous, on n'a pas payé ça, mais c'était très cher quand même. C'était presque 4 euros.
Il me semble qu'on est plus proche des 4 que des.
Mais ça fait partie des endroits les plus chers.
Ouais, Saint-Afrique.
Donc tout le monde le voit.
Il y a eu de gros investissements au niveau de la station d'épuration, entre nous, il n'y a pas que ça, quoi.
La flotte, problème numéro un, évidemment, qui n'est plus, malheureusement, quasiment plus une mission de service public, même si, on pourrait débattre longtemps là-dessus. On voit bien que, d'un côté, on a un mec qui distribue la flotte et qui laisse un réseau dans un état absolument presque lamentable, avec des pertes partout, donc on gaspille de l'eau plein pot. Mmh. Et le particulier, lui, se prend des factures d'eau
monstrueuses.
Mmh. Alors, les solutions, tout de suite, alternatives, commençons avec la flotte.
Moi, j'ai une question de base aussi. Jean, est-ce que tu sais quand est-ce qu'on a inventé...
Mais depuis quand tu me coupes la parole quand je suis en train de poser des questions?
Parce qu'on est habitué, nous, une génération, on est habitué à payer pour l'eau parce que c'est un service d'État. Mais quand est-ce que ça a été inventé? Ça n'a pas été inventé il y a très très longtemps, Jean.
C'est pas inventé.
C'était quoi la question, Marie?
Eh bien, si tu veux, avant, les gens avaient des sources et l'eau, c'était pas payant. Oui. Quand est-ce que l'eau payante a été... Parce que c'était une taxe. Hein, c'était dans les villages ici, tout le monde s'en foutait d'avoir de l'eau de ville.
Ouais.
Donc ça a été, si tu veux, un impôt...
Sous prétexte de distribuer à tout le monde, peut-être, non?
Et j'ai pas trouvé... Bien sûr, sous prétexte de distribuer, mais sauf qu'ils l'ont obligé, les gens qui avaient recours à l'eau gratos, à la payer.
Non, mais si tu veux, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, y a une grande société qui s'appelait la Lyonnaise des Eaux, qui s'est développée très vite en proposant aux communes, en fin de compte, un réseau, ce qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que les gens, ils allaient chercher l'eau au puits, etc. etc. Quoi, c'était pénible, quoi. Sauf qu'à cette époque-ci, il y a des sociétés qui sont montées. On se souvient surtout de la Lyonnaise, parce que ça a été une des plus grandes, quoi, pendant longtemps.
Qui sont partagées avec la Générale, pas après.
Après, il y a eu plein de rachats, etc., Vivendi, etc. Mais bon, toujours est-il qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseau. Donc, il a bien fallu, au départ, créer un réseau pour chaque commune, etc., etc. Donc là, c'est du TP, c'est des gros travaux, et il fallait un maître d'œuvre qui soit capable de mettre en place ça. La Lyonnaise s'est distinguée.
Prenons un exemple concret.
À peu près à cette époque-là, quand on a commencé à industrialiser, en fin de compte, notre réseau.
C'est-à-dire si la mairie veut faire un lotissement, si la mairie veut faire un lotissement, il est évident qu'elle est obligée d'amener une distribution d'eau d'une façon équitable pour tout le monde.
Tout à fait.
Par exemple.
Tout à fait.
Mais t'es obligé de te brancher dessus, par contre.
Ça, c'est tu. On va en parler. Ah non,
tu peux très bien avoir l'eau au bout de ton jardin, mais on te forcera pas à la consommer.
Parce que nous sommes première bonne question, Marie. Attends, on va essayer de
Tu n'es pas obligé de prendre un abonnement. Tu n'es si tu comment te dire. Tu es obligé si tu as une plaque d'eau de ville.
Ouais.
À te connecter dessus, même si après tu résilies ton abonnement, tu es obligé de te brancher dessus.
D'accord, mais il y a pas d'obligation de consommation.
Ouais, mais
il y a une obligation. Alors première question.
Ce qui est fou, c'est que en plus il y a pas vraiment d'obligation de consommation, mais si tu ne consommes rien, forfaitairement par an, on va te prendre un certain volume. En l'occurrence là, je crois que c'est 10 ou 12 mètres cubes.
Est-ce qu'il y a une obligation d'abonnement donc?
Oui, oui.
Il y a une obligation d'abonnement. Tu es obligé de te connecter sur le.
Si t'as un compteur, oui. Oui, tu vas recevoir un
abonnement. Si t'as pas de compteur, t'arrives dans une maison où tu construis, t'as pas la flotte.
Tu peux pas, parce que
si
pour avoir
une
mais pour avoir un CU, c'est-à-dire un certificat d'urbanisme, il te faut avoir l'eau. L'eau potable et des chemins d'accès.
Donc déjà, première chose, il y a une obligation de raccordement pour avoir l'autorisation de construire.
Voilà, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir un CU, on te demande simplement d'avoir des accès propres pour une ambulance, pour les pompiers, etc.
Ça, on peut comprendre, ouais.
Tout à fait. Et le deuxième point, c'est l'eau potable. On parle même pas d'énergie. C'est-à-dire l'électricité, on n'en parle pas pour un CU. Ouais, on te parle simplement
d'eau.
Alors effectivement, si t'as le réseau qui est à côté de toi, bah, tu te branches sur le réseau Haute-Ville, et là, il n'y a pas de problème,
t'as
ton CU. Mais
tu es obligé de le faire.
Non, mais voilà, j'ai bien compris. J'ai bien compris la réponse.
Et le mec, il va faire une tranchée, il va tout faire, ça va lui coûter, je dis n'importe quoi, 5000 euros. Tu penses qu'après, il va quand même en général prendre un abonnement, parce que tu vois, c'est des frais.
Ah bah une fois qu'il a fait les frais,
si tu veux, la démarche, là, bon, souvent les gens, ils passent par le réseau Ville pour avoir le fameux CU, pour pouvoir construire leur maison. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que après, de par le potentiel de leur maison où ils sont installés, s'il y a une source, un puits, un forage ou s'il y a des grosses capacités en surface de toiture, les gens, c'est après qu'ils entament une démarche. Quand ils reçoivent les premières factures, ils se disent « bon, on peut peut-être tenter un projet, s'il y a une panne ou quoi que ce soit, de toute façon, on pourra retourner sur l'eau de la ville, on va tenter de faire des économies, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en essayant de devenir le plus autonome possible. » Donc, mais c'est une démarche secondaire. Généralement, pour avoir le CU, sauf les gens qui habitent en pleine campagne, qui n'ont pas de réseau ville,
qui sont
contraints
obligés,
effectivement de passer par tout un système de filtration, de purification pour avoir l'eau potable, c'est exactement la même chose. Après, il y a quelqu'un de la DAS qui descend, qui vient, qui prend, qui fait une analyse, qui dit bon, bah ok, l'eau est potable, il met le coup de tampon et t'as ton CU.
Donc deux chiffres vite
fait. C'est pas obligatoirement le réseau Haute-Ville, ça peut être un réseau Haute-Pluie. S'il est potable, s'il est rendu potable.
Une question, juste de chiffres hein, pour éclairer un petit peu. Une famille de 4 personnes, grosso modo, ça consomme entre 120 et 130 mètres cubes à l'année, à peu près.
Oui, en Aveyron.
Entre 100 et 130 en Aveyron.
À Paris,
donc,
c'est 400.
Donc on a une facture annuelle qui est de l'ordre de 600, 700 euros par
an. Hein, voilà, pour la petite famille.
Ah bon, c'est beaucoup, beaucoup plus. Pourquoi en ville, ils se lavent plus ou quoi
Non, c'est des consommations transitoires, c'est-à-dire que tu vas dans les grandes villes, tu as plein de trucs qui coulent un peu partout, et quand tu ramènes ça à une moyenne globale, tu t'aperçois que, qu'effectivement, à Paris, ils sont à 400 litres.
Il y a beaucoup de pertes sur le réseau, il y a beaucoup de fuites. Il faut savoir que cette obligation d'entretien, c'est assez fun d'ailleurs. Avant le compteur, c'est pour le propriétaire, après le compteur. Et le souci qui se pose, c'est que les obligations d'entretien ne sont pas toutes tenues. On a le problème, entre autres, à Saint-Afrique, ça a été soulevé d'ailleurs dans cette émission il y a quelques mois en arrière. Il y a des fuites et des pertes phénoménal sur le circuit. Et là, on pourrait déjà commencer. Mais ça, c'est encore une fois, j'ai un peu envie de dire, c'est la partie industrielle.
Oui, c'est pas celle qui me passionne le plus.
C'est pas le plus intéressant. Revenons donc. Alors, imaginons, là, on est sur la flotte. Le type, il arrive, il construit, il se raccorde, il reçoit ses factures, il se dit 700 euros par an. Bon, allez, ça va me faire 7000 sur 10 ans, ça me gonfle, j'ai une source qui est clean à côté. C'est quoi la démarche pour être autonome en eau aujourd'hui?
La première, c'est déjà d'être conscient de ses besoins. Ça, c'est clair.
Bien analyser les besoins.
Voilà. Alors souvent, les gens ont du mal là-dessus. Mais comme je leur dis, il y a un truc tout simple. Si vous étiez avant sur le réseau Haute-Ville, prenez vos dernières factures d'Haute-Ville, et là, au moins, vous avez une idée de votre indice, de votre consommation. C'est une bonne base de travail. C'est-à-dire pour estimer que, sur un an, j'ai consommé 150 mètres cubes. Voilà, tu sais de quoi tu as besoin. Ouais. Mais quand tu arrives sur un terrain nu où tu construis, que tu ne connais pas encore tes besoins, tu comprends? Donc il faut essayer de...
Bah, t'as la facture d'avant, l'endroit où t'habitais avant quand même.
Ouais, mais bon, s'il y a du jardin, s'il n'y en a pas, etc., etc. Donc il faut prendre le temps, s'asseoir, prendre un stylo, un papier, un crayon, puis de se dire...
Faire une étude.
Ouais. Voilà, une étude. Alors tu te fais aider quand tu ne sais pas. Mais c'est très simple, hein. Tu dis, en gros, 150 litres d'eau. Alors, tous les chiffres que j'annonce là, il y en a qui vont me dire, oh là là, mais 150 litres d'eau par jour, par personne, sûrement pas, moi j'en consomme que 10. Tout à fait, très bien, c'est parfait. Je parle de moyenne. C'est des moyennes, parce qu'il y en a qui arrivent à vivre avec 10 litres d'eau, hein. comme il y en a, il leur en faut 400. Quoi,
et tu puis vois, l'intérêt de l'étude aussi, à ce moment-là, c'est aussi qu'une étude, elle n'est pas là que pour faire une analyse de chiffres, elle est également là pour faire des choix. Une étude, en général, c'est je suis qui, moi, je fais quoi.
Voilà.
C'est toujours comme ça, une étude, quel que soit le métier. Et donc, la prise de conscience, c'est finalement, c'est bien beau, mais si je veux que ce soit intéressant, mon système, il va peut-être falloir que je change mon regard. Donc analyse de la consommation, mais également, par rapport à ça, où est-ce que je peux, moi, être moins bête dans la manière de dépenser de l'eau.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Et si tu veux, dans cette démarche, après, une fois qu'on a clairement déterminé, bon, bah, y a du potager, c'est 20 litres à peu près au mètre carré pour avoir quelque chose qui donne un peu, les arbres, la maison, etc., qu'on a fait ce bilan, on sait que, bon, bah, par exemple, je vais dire une bêtise, on en a pour 150 litres par personne par jour. Ici, en Aveyron, on a une pluviométrie qui fait qu'on est en gros à 750 litres d'eau au mètre carré par an. C'est-à-dire que sur un mètre carré de toiture, il tombe 750 litres d'eau.
C'est quoi par rapport à la moyenne nationale, ça? Ça nous positionne comment?
On n'est pas au plus haut, hein. Le plus haut, c'est au nord.
On est un des départements. Il pleut mais assez peu, finalement, ici.
Assez peu, mais ça va encore, comparé au Var ou des... Ouais, quoi que non, même pas. Dans le Var, il pleut plus. C'est ça
qui est
étonnant.
C'est dans le sud de la France, petite info, qui pleut le plus en France, c'est sur la région PACA. Hein.
Ouais, mais bon, c'est sur des courtes périodes, ça fout plus le bazar qu'autre chose. Mais bon, ici, ça va, on est plutôt pas mal. Avec 750 litres d'eau par an sur un mètre carré de toiture, on peut faire des choses. T'as 100 mètres carrés de toiture, ça te fait un potentiel de 75 mètres cubes.
Donc là, on parle de la première solution qui est la récupération d'eau de pluie.
Oui, là, c'est une des plus simples et des moins coûteuses.
Bon, il faut une cuve pour ça, il faut un stockage.
Après, le gros du budget, il est là en vérité, sur le génie civil de la cuve. Parce qu'effectivement, avec 750 litres d'eau au mètre carré par an, on a quand même 4 mois, 3 à 4 mois, où on n'a pas de renouvellement, c'est-à-dire où il ne pleut pas. Et c'est ces 4 mois-là qu'il faut passer, en gros, juin, juillet, août, des fois septembre. Ces 4 mois-là, il ne pleut pas, donc il n'y a pas de renouvellement, donc il faut que la citerne soit, comment dirais-je, dimensionnée en conséquence, pour pouvoir te passer justement ces 4 mois chauds.
Alors,
l'été,
c'est quoi la base,
où t'en as besoin.
C'est quoi la base en mètre cube ou en litre, si tu pourrais être plus clair, et il faut une cuve de combien pour faire ce passage?
Si on reprend l'exemple de la petite famille de 4 personnes, qui va consommer en gros 150 litres d'eau au jour, avec le potager, avec tout, bah, en gros il te faut 50 cubes pour passer ces 4 mois.
Ce qui fait en litres?
50 000 litres.
Bon voilà, une baignoire c'est 200 litres. Hein. Tout ça c'est des petits chiffres pour bien. Voilà, on prend un bain, boum, 200 litres.
Donc 50
voilà.
cubes, ce qui en surface fait.
Après ça dépend. Alors si tu veux, quand on arrive sur des dimensions comme ça, souvent les gens ils se disent oui, bon, on va mettre une cuve en béton, en acier, en polyéthylène. Pour être dans le métier, je peux vous dire que je les ai toutes épluchées en long, en large, la tarification, avantages, inconvénients. Quand on arrive sur des dimensions qui dépassent les 20 mètres cubes, il vaut mieux bâtir. C'est-à-dire qu'on fait en béton.
Ouais.
En béton banché, là, oui, ça vaut le coup.
Et j'ai
au
lu aussi
coût.
Que c'était très bien pour... toi, tu connais ça par cœur, bien sûr. Qu'en fait, le béton, c'était très bien pour la minéralisation. Je ne sais pas le bon terme.
Bah, les anciens, on n'a rien inventé, une fois de plus.
Ils faisaient comme ça, les vieux, non?
Bien sûr. Avant, on disait...
L'eau de pluie est trop acide et que c'est beaucoup mieux de la coller dans un bâti en béton.
Non, c'est pas tout à fait béton, je vais t'expliquer. Mais c'est pas... Mais si tu veux, les anciens, ils avaient déjà tout compris. Tu regardes toutes les bâtisses ici, elles sont toutes montées sur le même process. C'est-à-dire que la première génération fabriquait la citerne, la deuxième la bergerie et la troisième la ferme.
D'accord.
Mais le premier truc, c'était la citerne. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des citernes ici, templières, mais de
j'en
toute
ai vu
beauté.
Aussi,
mais
sur le coast, là. Sur le,
mais son, magnifique, ouais. Oui, dès que tu montes un peu sur le Viala, etc. Quoi, c'est splendide, quoi. Mais c'est des très grosses capacités, quoi. D'accord. Alors effectivement, ils faisaient ça en pierre assemblée, propre, etc. Beau boulot, quoi. Alors effectivement, pour l'étanchéité, souvent, ils blanchissaient à la chaux. C'est-à-dire que la chaux, c'était un super hydrofuge, donc ça imperméabilisait encore la citerne. Mais la chaux, en plus, avait l'avantage de te modifier un peu le pH, justement, de pallier au problème de l'eau de pluie.
Parce que les gens le savent. Moi, non, je ne le savais pas du tout. L'eau de pluie, en fait,
elle est neutre. Ouais,
mais pour l'organisme, elle n'est pas terrible parce qu'elle est trop...
Oui,
trop
neutre,
enfin, c'est ça ?
Ouais, trop neutre. Alors effectivement, il y a certaines plantes vertes que tu peux pas trop arroser avec de l'eau, avec de l'eau de pluie, etc.
Ça,
mais bon, faut arrêter un peu.
D'accord.
Enfin, le fait de blanchir une citerne à la chaux, ça l'imperméabilise, mais en plus, ça fait monter un peu le pH. Donc du coup, on se retrouve avec et c'est même bactéricide. Donc petite quantité. Mais les anciens faisaient comme ça. Donc nous, on fait toujours pareil. Le béton, tu peux le blanchir à la chaux.
Donc on reprend, on fait construire, on fait maçonner éventuellement donc sa citerne. Donc ça demande un petit peu de place.
Ah, il y a une surface au sol.
Il y a une surface au sol. C'est enterré ou c'est extérieur en général?
Il faut que ce soit enterré.
Toujours enterré.
Toujours enterré.
D'accord.
Le stockage de l'eau ne se fait qu'enterré. Alors le stockage.
Pour éviter la lumière et donc les inconvénients dus à la.
Le truc tout bête, l'eau, ce que ne supporte pas l'eau, c'est les changements de température. C'est-à-dire que dès que tu as une différence de plus de 2 degrés, que l'eau commence à changer, soit en plus, soit en moins, on a obligatoirement un développement bactérien. C'est là qu'on se retrouve avec des mousses, des bêtes, etc. L'eau doit être enterrée, elle doit être à 12, 13, 14 degrés, mais constant.
Puisqu'il évite de geler aussi, tout bêtement, non ?
Là, on est oui, bien sûr, mais l'eau se stocke. Il faut vraiment avoir une température stable. Il ne faut pas de lumière, il faut que ce soit bien ventilé. Mais à partir de ce moment-là, tu peux stocker l'eau aussi longtemps que tu veux. Il n'y a pas de limite de consommation. Bon, le génie civil est relativement important parce que quand on fait une citerne comme ça en béton banché, on ne peut pas faire non plus des citernes trop profondes. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre de la surface au sol, mais se limiter en hauteur de la citerne. Elle ne peut pas faire beaucoup plus de 2 mètres. Au-dessus de 2 mètres, il y a des contraintes techniques qui font que ça peut poser un souci. Donc ça fait des grandes surfaces au sol. Effectivement, on peut avoir, je sais pas, 100 mètres carrés, ta citerne, elle peut faire 100 mètres carrés au sol, c'est pas un problème, quoi. C'est des endroits qui sont à prévoir dès le départ, quand on commence à concevoir la maison. J'ai presque envie de dire, c'est à concevoir avant même les schémas, les plans de la maison, hein, parce que bon, on fait la citerne et souvent on met la maison dessus.
Citerne, évidemment, on monte pas une citerne comme ça avec le seul objectif d'arroser le jardin, a priori. Hein, sinon, l'objectif, c'est de pouvoir, je dirais, réinjecter l'eau récupérée ainsi dans le circuit. Alors, par contre, on sait bien évidemment qu'il y a un problème puisque ce circuit, lui, il amène de l'eau de ville. Ouais. Dites potable selon les normes officielles, on va dire, et que évidemment l'ADAS et un tas d'organismes vont nous imposer de pas faire ça. Donc ce qu'on fait, on va mettre des clapets pour éviter que l'eau vienne se mélanger avec l'eau.
Jusque où,
Jean, on peut utiliser cette eau d'une façon domestique. D'abord, est-ce qu'on a le droit de la boire? Ensuite, est-ce que on peut la mettre facilement juste pour prendre ses mains ou pour la chasse d'eau? Comment ça s'oriente? Ça a l'air très complexe, le circuit, là.
Ça ne l'est pas du tout.
Ah bon?
Oui, souvent, les gens, ils se font tout un monde, mais c'est très simple, en fin de compte. Or, bon, on peut parler très rapidement du législatif, parce que franchement, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. La loi dit simplement qu'on est obligé de mettre un dispositif de un dispositif de séparation des eaux. C'est un bien grand mot qui veut dire clapet.
Oui, c'est un clapet anti-retour.
C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où tu utilises ton réseau d'eau, mais avec deux adductions différentes, eau de pluie, eau de ville, il te faut un dispositif pour bien séparer les deux, ce qui paraît logique, quoi. Pas besoin de faire une loi pour imaginer qu'on ne va pas renvoyer l'eau du puits dans le réseau ville, quoi. C'est tout, ça s'arrête à ça.
Non, après, il faut mettre des autocollants.
Oui, effectivement, on a des petits pictogrammes eau non potable, mais moi je les mets à chaque fois chez les clients.
Par contre, eux considèrent d'office que l'eau qu'on réinjecte est non potable.
Alors là encore, si tu veux, il y a deux écoles. Il y a les gens qui sont, on va dire, les inquiets, ou par rapport aux moyens financiers, qui vont faire un double réseau. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le réseau d'eau de ville pour les points d'eau consommable, potable, et puis un deuxième réseau pour la machine à laver, pour tous ces appareils. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans le sens où c'est déjà un début de démarche, puis c'est pas bien parce que financièrement, quand tu regardes, ça te fait un double coup. C'est-à-dire que tu es obligé de créer un deuxième réseau avec tous les ennuis qui vont avec, quoi. Du cuivre, des vannes, des machins, des bidules. C'est un peu usine à gaz.
Le législatif, c'est vrai que c'est pas intéressant, mais non. Je suis tombée sur un truc qui date d'il y a assez peu de temps, je crois que c'est un an ou deux, où ils ont... Donc maintenant, tu es obligé déjà, évidemment, de déclarer. Gens sont un peu inquiets en se disant « Ah tiens, déclarer, ça veut dire quand est-ce qu'ils vont me taxer sur l'eau de pluie ?» Deuxième chose, tu n'as pas le droit d'alimenter ta cuisine avec. C'est limité aux chiottes, à la salle de bain.
Je sais pas où tu as vu ça, mais à partir du moment où la DAS est venue chez toi, qu'elle a fait son analyse, tu as la validation de cet organisme-là, tu as tout à fait le droit de consommer cette eau. Non, je ne sais pas où tu as chopé ça, mais...
Alors peut-être je me
trompe. Je te garantis que non, il n'y a aucun souci là-dessus. Okay.
T'as raison, c'était peut-être dans la perspective où il n'y avait pas un organisme qui venait contrôler.
Oui, mais...
J'ai vu par contre qu'il faut déposer des liasses de déclaration à la mairie, ça c'est obligatoire.
Ah oui, c'est le fameux CV, oui.
Ah,
ouais.
Oui.
Mais bon, pour en revenir à la citerne, je ne sais plus où j'en étais. La citerne, oui, donc il y a deux réseaux possibles, effectivement, soit un réseau eau propre, eau pas propre, potable, non potable. C'est la première des solutions, la moins coûteuse, parce qu'en fin de compte, on peut se contenter simplement d'avoir ce qu'on appelle une filtration granulométrique, c'est-à-dire qu'on va simplement séparer les boues en suspension qui sont dans l'eau, puisque l'eau qui coule de ton toit, si tu veux, vient rincer ton toit, donc tu ramènes obligatoirement des boues, des poussières, que tu retrouves dans ta citerne, qui après vont être pompées, surpressurisées, envoyées sur le réseau. Mais si tu n'enlèves pas ces boues, tout ce qui est électrovanne de machine à laver, robinetterie, etc., chauffe-eau, ça va très vite s'encombrer. Donc tu es obligé de mettre ce qu'on appelle une filtration granulométrique. C'est-à-dire qu'on passe par 3 bols. Souvent les gens ils se trompent, ils n'en mettent qu'un. Mais si tu mets qu'un filtre à 10 microns, il va saturer tout de suite. Il faut faire 3 filtres, 100 microns, 50 microns, 10 microns. Et à la fin, cette eau, qui granulométriquement parlant est correcte, peut être utilisée à des fins sanitaires. Maintenant, si toi, tu prends la démarche suivante de te dire, bon, c'est une bonne démarche, mais j'ai un petit peu plus de moyens ou possibilité d'investir un peu plus, cette eau, je veux pouvoir la consommer aussi. Pour moi, c'est l'idéal, parce que tu évites le double réseau, tu évites beaucoup de frais supplémentaires. Par contre, ça t'oblige à faire de rajouter une deuxième filtration qu'on appelle une filtration bactériologique. C'est-à-dire pour enlever les microbes, parce qu'on peut toujours avoir une charogne qui s'est mise dans un chéneau, dans une gouttière. Bon, il faut quand même pouvoir la traiter.
Ou des stations d'épuration en amont qui rebalancent. Oui, non, mais j'ai bien compris qu'ils rebalancent dans les sources ou qu'ils rebalancent avec une infiltration générale dans le sol. Hein,
Pour la potable, enfin, moi, je suis pas inquiète. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets pour la santé. Ouais. Les pluies acides, les trucs, les machins, ça, c'est
pour l'instant, ça va, mais va savoir dans 20 ans comment ce sera. Mais bon, pour l'instant, ça va. Pour finir, si tu veux, granulométrie, bactériologie, et éventuellement, on peut avoir des problèmes chimiques. Alors, par exemple, quand on travaille sur un puits, un forage, on peut avoir effectivement des problèmes de nitrate, de sel d'Epsom, de produits, de résidus agricoles, quoi, de traitements agricoles. Donc là, on sera peut-être obligé aussi d'avoir une action sur le chimique. Et à la fin, évidemment, ici, tout le monde le sait, c'est l'anticalcaire. Quoi.
Il y a un problème avec ça.
C'est normal, c'est notre région qui veut ça. Quoi.
Je te rends la parole tout de suite, Jean, simplement pour rappeler, évidemment, il est 10h26 que vous êtes en direct sur les Tontons Flingueurs, que la thématique aujourd'hui, c'est quelles solutions alternatives, vu l'explosion des coûts énergétiques, et puis même philosophiquement, quelles solutions alternatives pour nos énergies de demain, notre manière de les consommer et lesquelles. On va pas faire... C'est très très intéressant. Maintenant, évidemment, on va faire une partie sur l'eau tout de suite. Dans quelques minutes, on va écouter un petit peu de musique. On passera après aux autres énergies, parce que c'est important aussi d'élargir un petit peu. Je voudrais donc, Jean, qu'on essaye. C'est difficile, je sais, de pas trop faire technique, parce que t'es un super pro, toi, tu nous parles de filtres et tout, c'est vraiment intéressant.
Non, je trouve pas ça technique.
Excuse-moi, mais tu as le droit de pas trouver. Marie, on a des auditeurs, je le rappelle quand même.
Les auditeurs, vous trouvez ça technique? Appelez-nous.
Téléphonez pour nous dire. Mais c'est la question que tout le monde se pose, la question que tout le monde va se poser aujourd'hui. C'est bien beau tout ça. Est-ce qu'on peut avoir une estimation, un coût, pour une famille de 4 personnes, une installation comme celle-ci, ça représente quoi à peu près?
Ouais, je peux te le dire. Bah écoute, le plus gros budget étant toujours la citerne, ça dépend de l'investissement que tu mets dans le projet. Hein. Si tu restes les mains dans les poches à côté du chantier, puis que tu fais tout faire, allez, un chantier pour 4 personnes, pour être totalement autonome en eau, tout ce qui est citerne, génie civil, etc., tu vas en attraper pour 20-25 000 à peu près.
Wow!
Pour 50 cubes aussi. Hein.
Ouais, d'accord.
Ah ouais, mais attends, c'est du gros bâti. Ouais, là, on parle pas de château de sable. Hein. Ouais, c'est un gros boulot, quoi. Et puis après, tout ce qui est surpressurisation, filtration, etc., il te faut rajouter encore à peu près 15 000.
Ouais, donc tu vas très vite arriver, tu vas très vite arriver à 20% 35, du coût d'une maison, quoi, quasiment.
30-35 000 euros à peu près.
Ouais, 20%, 20% du coût.
Je parle du gars qui n'a jamais planté un clou de sa vie, qui part de zéro, qui ne profite de rien, qui n'a pas de source, qui n'a rien. Hein.
Solution un petit peu plus, on va dire entre guillemets modeste, le type déjà qui dit, et c'est pas si mal que ça, j'arrête de nettoyer ma voiture avec le jet d'eau potable, j'arrête de tirer mes chasses d'eau avec mon eau potable, est-ce que l'on peut, avec une petite cuve, je dirais externe, déjà compenser un minimum de besoins sur le même principe.
Bien sûr. Donc, tu peux diviser quasiment par deux ta facture, rien qu'en faisant attention, en utilisant les eaux potables, non potables, à des fins toilettes, etc. Tu ne mets rien que tes toilettes dessus. Vas déjà faire chuter gros.
Il y en a qui vont parler de toilettes sèches aussi.
On arrête les toilettes. Moi, j'étais pas pour cette idée, mais c'est bon, je vais le faire. Quoi,
la toilette sèche.
Bah oui,
ça paraît une évidence presque. Hein.
En plus, quand tu sais que du coup, tu vas faire une fosse qui est. C'est beaucoup moins compliqué. Hein. T'arrêtes de faire caca dans un tuyau, tout est plus simple.
Hein. Déontologiquement, on est quand même une des rares peuplades à déféquer dans de l'eau potable. Hein,
c'est hallucinant quand même de tirer des chasses d'eau potable.
Un éthiopien, il te regarde bizarre.
Alors, on pourrait peut-être donner une petite feinte comme ça, toute bête. Bon, évidemment, une grande partie d'entre vous sont déjà au courant, mais c'est pas grave, on va le rappeler si ça peut servir à quelques personnes. Quand vous n'avez pas ces systèmes un petit peu plus récents d'économiseurs d'eau sur les chasses d'eau que vous avez encore à chaque fois que vous allez faire votre petit pipi, que vous bouffez 30 litres ou 40 litres, il y a une feinte très simple. Hein, vous prenez un parpaing ou vous prenez un gros volume que vous allez mettre dans le réservoir d'eau qui va avoir l'avantage, évidemment, de diviser par deux le volume disponible et vous ne boufferez. Vous allez diviser votre consommation consommation par deux. Mmh. Ça a l'air tout bête, mais
non,
quand on n'a pas le,
c'est loin d'être bête. Rigolo,
ouais, ouais, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont mis en œuvre quand on n'a pas. Bon, le plus simple, c'est de pouvoir changer
le
mécanisme.
Prenez un petit parpaing, hein, parce que sinon, vous ne défoncez pas votre. Je vois très bien les gens qui sont pas très bricoleurs.
Et vous mettez pas le parpaing là endroit où vous pissez. Hein, vous mettez le parpaing dans le réservoir d'eau, vous voyez.
Il peut y avoir des accidents.
Non, mais c'est tout con, mais t'économises la moitié. Un parpaing, ça représente un cubage. C'est quand même extrêmement intéressant comme solution, bien que il vaut mieux changer le mécanisme, puisqu'aujourd'hui tous les toilettes vendues proposent en général une solution demi-chasse d'eau. Et puis le mieux, c'est qu'on tire pas la chasse d'eau quand on va faire son petit pipi. On peut la tirer.
Alors le mieux, comme
fois.
Les garçons font pipi dehors de toute façon, les filles c'est plus compliqué, mais voilà quoi. Chez le voisin, c'est mieux.
Ouais,
en général.
Vous dites ça, mademoiselle, parce que vous en avez marre de nettoyer les toilettes derrière nous, c'est ça quoi, grosso modo.
Bah, ça a plein d'avantages, on va dire.
Mais genre, tu sais, là, pour reparler un peu finance, là, ouais. le prix que je t'ai donné aux alentours de 40 000 euros, ça c'est pour quelqu'un qui ne fait rien, qui ne sait pas, qui
n'est pas bricoleur.
Voilà. Mais j'ai presque envie de dire, c'est 1 sur 10. Les 9 autres, 9 fois sur 10, ils se débrouillent par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont s'investir sur le projet. Ah non, mais attends, moi je peux te
dire. Moi je suis le roi des cons, moi, tu vois. Je veux dire, tu me mets sur un chantier pour faire ça, je suis pas bien.
Tu dois
je fais partie des
1
sur 10. Merci Jean.
Le bâti dont parle.
Les gens connaissent qui ont réalisé le même type de projet pour la moitié, même pas.
C'est du parpaing empilé, quoi. Je veux dire, c'est. Même moi, c'est chiant à faire, mais même je pense que j'y arriverai, quoi.
Bien sûr.
On va avoir l'occasion d'en reparler, mais il y a un truc aussi évident, c'est que toute forme de notion d'économie. Éco-citoyen entre guillemets qui nous emmène, qui peut nous emmener vers des projets alternatifs. De toute manière, actuellement, on s'en rend compte dans tous les témoignages. Il faut être un peu bricoleur au départ quand même. Hein.
Faut avoir envie,
s'investir et ça aide énormément quand même.
Bah, bien sûr.
Hein, voilà. Ouais. On fait une petite respiration. Chloé, je sais pas ce qu'elle nous a choisi. On lui fait confiance. Vas-y, Chloé, envoie-nous de la ZAC, s'il te plaît.
Hit.
Retour sur les tontons flingueurs avec Jean, merci Jean, de spécialiste de l'eau, avec Marie, et puis avec Boubou, et puis avec Chloé, voilà, vous êtes en direct, on est jeudi matin 10h34, si c'est jeudi soir, tant pis pour vous, samedi, tant pis pour vous, si c'est en podcast, tant pis pour vous, en tout cas, vous pouvez aujourd'hui nous appeler 05 65 49 29 94, la thématique, les énergies, on était sur l'eau, c'était très intéressant, on va donc proposer à Jean de nous faire une petite, un petit truc à nous rajouter sur l'eau, Jean. Qu'est-ce que tu voulais nous dire de beau, Jean? Tu voulais conclure?
On pourrait en parler
pendant 18 heures. Hein, oui, je te fais confiance.
Bon, voilà, on effleure, si tu veux, la récupération des eaux de pluie, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a le captage, il y a la pluie, la source, le forage, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais je crois que si on devait conclure, le premier point, c'est de prendre le temps. Souvent, les gens, ils sont d'un seul coup, ça leur prend. Il faut être autonome en eau. Ils se lancent dans des projets qui sont souvent pharaoniques. Le premier truc, c'est de prendre le temps de réfléchir, c'est-à-dire de ne rien faire tant qu'on n'a pas saisi l'intégralité de toutes les données qui pourront faire que ton projet va fonctionner ou pas.
Maintenant, faire une étude, c'est quand même quelque chose de complexe, on le sait. Hein. Faut être capable d'aller chercher les infos, faut se faire aider. Auprès de qui on peut se faire aider? Des professionnels? Il y a des organismes d'État ou faut aller voir des professionnels?
Moi, je préférerais qu'on traite en local. C'est-à-dire, souvent, tu as des gens très bien là en local qui maîtrisent, qui ont en plus un historique de hydrologique de la région pour qui c'est beaucoup plus facile que de prendre des généralités sur internet.
On peut quand même commencer avec l'ADEME, il y aura des bases, non? Par exemple.
Ouais, je sais pas, je suis jamais allé trop voir. Oui, mais enfin bon, je pense
ils disent beaucoup de conneries, l'ADEME.
Ah bon?
Je pense que sincèrement, il faut avoir une application beaucoup plus locale. T'as des gens ici qui savent faire, tu peux être conseillé de façon intelligente. Des fois, rien que ton voisin, des fois, il est dans le même cadre que toi et d'aller voir ce que fait l'autre.
Finalement, on revient à la bonne vieille idée de démonstration par l'exemple. Plutôt que de faire des grands discours politiques, faisons. Et puis quand il y en a un qui a fait, il intéresse celui d'à côté. Et
il voit s'il y a des transitions possibles entre son projet et le sien.
Et voilà. On va élargir un petit peu. Ça ne veut pas dire, évidemment, bien sûr que c'est passionnant. On a d'autres soucis sur nos factures. On en parlait pendant la coupure musicale. Évidemment, on le voit tous, augmentation du gaz, de l'électricité, du pétrole, ainsi de suite. Bon, tout ça, c'est les énergies et ce qu'on sait s'en débarrasser. On commence à envisager aujourd'hui de plus en plus, hein, particulièrement à l'intérieur des villes, parce que c'est beaucoup plus facile de se passer de la voiture. À la campagne, en milieu rural, se passer de la voiture, ça paraît beaucoup plus compliqué. Alors moi, j'ai envie d'être un peu plus précis, c'est peut-être compliqué en hiver. Maintenant, je suis sûr qu'en été, pour tous les gens qui vivent dans un rayon, moi, quand je vois le nombre de gens qui prennent leur bagnole pour aller chercher la baguette qui arrive du haut de Sainte-Afrique et qui vont aller au centre-ville de Sainte-Afrique avec la voiture, alors qu'il y a 250 mètres à pied précisément, on peut encourager évidemment déjà... De toute manière, à mon avis, je suis peut-être un peu trash, je suis pressé que l'essence soit à 2 euros le litre, moi, perso. Je suis pressé, pourquoi? Parce qu'on sera dans l'obligation de réfléchir.
Ouais, mais tu peux pas dire ça pour tous les gens qui sont obligés de se taper une demi-heure de trajet le matin pour aller au...
Moi, j'aimerais qu'on comptabilise un jour ceux qui sont vraiment obligés. Parce que si on pose la question sur 100 personnes, il y en a 99 qui vont dire « Ah ouais, moi je suis obligé ». Et je te dis, commence par écumer, parce que moi aussi j'en vois au quotidien, Marie, des gens qui prennent leur bagnole pour aller faire les courses en centre-ville.
Regarde, tu en fais partie des gens qui sont obligés ces kilomètres?
Je suis obligé de faire ces kilomètres, par contre je peux te dire un truc, c'est une fois que la voiture elle est posée le matin, il m'arrive de remonter des fois à l'autre bout de la ville, pas loin de l'imprimerie nouvelle et ainsi de suite. Ça fait quelques mètres à pied. Oui, je connais plein de gens qui vont prendre la bagnole pour faire le tour de ville. Commençons déjà, ne serait-ce que pour ça, à laisser nos voitures. On a besoin de venir de l'extérieur, comme beaucoup de gens qui travaillent en banlieue quand ils sont en ville. On a le même problème. On arrive des villages alentours, on peut difficilement ne pas venir en bagnole. Mais par contre, une fois que la voiture elle est là, on n'a peut-être pas besoin de lui faire quatre fois le tour de ville pour aller faire les courses.
Il y a un problème éthique là-dessus, si tu veux. C'est dans le sens où la voiture, tant qu'on continuera à la présenter comme un objet de plaisir,
de confort, de luxe,
de rêve.
Voilà.
Alors que pour moi, une bagnole,
c'est un outil.
Ouais.
On est bien d'accord.
Ça doit à aucun moment te faire rêver au point de vouloir la prendre pour aller acheter le pain.
Ça fait rêver les gens à un point qu'ils s'endettent des fois.
Je suis désolé. Tant qu'on prendra la voiture pour un objet de plaisir ou de statut social ou n'importe quoi, des conneries, quoi, en deux mots, on n'avancera pas.
Donc vivement qu'on ait le litre à 2 euros. Je suis désolé de dire ça. De toute manière, ça va se faire. On n'a pas le choix. L'énergie pétrole, si on suit à peu près.
Oui, mais de là à dire vivement, non, je ne sais pas.
Non, parce que je te dis, ça va taper sur.
Ça va taper sur les plus pauvres, comme
ça. Sur le mec qui gagne le SMIC et qui fait son trajet le matin.
Qui est obligé d'aller à Roquefort faire des allers-retours. Bon, lui,
et
ça le branche pas, les deux
faire
euros.
Faire du covoiturage le matin.
Pas en même temps.
Parce qu'il n'a pas forcément un voisin qui va au même endroit que lui, quoi, tu vois. On est bien placé ici pour le savoir.
Pas forcément, mais
il
faudrait commencer par l'étudier. Il n'y a pas si longtemps que ça fait à peine 2 ans, par exemple, en Aveyron, qu'on a des gens qui se sont intéressés à monter des sites internet de covoiturage et ça marche plein pot. Simplement, ça aussi, si c'est des démarches comme pour l'eau qu'on est simplement, qu'on commence seulement à intégrer. Donc moi je pense qu'en réalité on peut tous baisser énormément notre budget essence, et même avec un litre à 2 euros, en étudiant autrement la manière dont on utilise, mais tous autant qu'on est, de la manière dont on utilise notre véhicule, je suis sûr qu'on peut réussir à rester à peu près à
c'est
budget
vrai qu'en
constant.
En étant très organisé, peut-être, oui,
mais bien sûr, j'en fais partie bon, aussi, ces gens-là, mais le comment dirais-je, le truc, c'est qu'en en fin de compte, c'est l'offre qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que quand on... je connais plein de gens qui seraient prêts à faire des efforts écologiques dans leur vie de tous les jours. Mais si l'offre qu'on leur fait n'est pas bonne, c'est-à-dire, là on parlait de la voiture, effectivement, objet de plaisir, de luxe, de loisirs, etc. Si on ne te propose que des solutions de consommateurs, c'est-à-dire où en fin de compte, achète cette voiture parce que tu vas être bien dedans, achète, je sais pas quoi, ce home cinéma parce que tu auras des belles images, achète.
Ouais.
Tant que l'offre sera basée sur le plaisir et non pas sur le...
Sur la réussite sociale aussi.
Sur l'utilité du produit à la fin, on n'avancera pas.
Les solutions, tu vois, on pourrait bien sûr déjà réduire nos trajets, etc. Mais on pourrait très bien rouler écolo. On pourrait très bien utiliser de l'huile de friture, ça fonctionne. Donc après, il y a aussi
les taxes. Ah mais là, t'as le pétrolier qui le pétrolier et l'État qui vont pas être d'accord.
98% de taxes.
Non, 80, pas 98.
Mais c'est plus que 80.
Non, Marie, 80%. Bon, 80%, un petit peu plus, 82 peut-être.
Enfin, c'est beaucoup, mais il y a aucune. Il n'y a aucune raison pour qu'on nous interdise de rouler à l'huile de friture, si ce n'est que ça fait des taxes en moins.
Ah mais c'est clair et net.
Et l'huile de friture, contrairement au biocarburant, qui était donc une aberration dans lequel se sont lancés les politiques sans même réfléchir une seule seconde, c'est une aberration.
On parle par exemple de l'éthanol, hein, on s'entend bien.
Oui, c'est, donc, ça coûte cher, c'est merdeux, finalement ça
justifie la culture d'OGM.
Et derrière, et ce qui m'ennuie beaucoup aussi, c'est qu'on a foutu des paysans dehors, il y a eu les histoires au Mexique, là, etc. Hein, bon, il y a des gens qui crèvent de faim parce qu'il y a deux clampins qui ont dit « Ah oui, c'est une bonne idée !» Ils n'ont même pas étudié le truc. J'en ai parlé à des politiques, des socialistes à Paris, qui sont dans les mairies. Ils me disent « Oui, on trouvait que c'était bien, alors... » Je dis « Mais attendez, mais vous avez quand même étudié... » Ben non, c'était... Tu vois, on se saisit, et tu parles de la rapidité, c'est vraiment prendre du temps, c'est ce qu'il faut, et je suis d'accord sur tous les sujets. Parce qu'aujourd'hui, c'est hop, on fait, parce que ça a l'air d'être bien.
Tu dis les politiques, j'aurais juste rebondir sur le problème des biocarburants. Moi, j'ai équipé ma voiture, donc on peut en parler un petit peu avant d'avoir étudié. C'est-à-dire, je trouvais ça bien, puis très sincèrement, il ne faut pas être focus, économiquement, c'était extrêmement intéressant de payer un litre à 0,95. Je ne vous raconte pas les économies sur chaque plein, c'est assez conséquent. Et donc, j'ai équipé la voiture avec mon petit kit éthanol, tout content. Et puis, effectivement, après, en entendant parler du sujet, j'ai fouillé un peu l'histoire. J'ai compris, en réalité, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas des gens qui ont réfléchi. Il y a des lobbies. Et particulièrement ceux qui pompent 90% des subventions européennes qu'on s'est prévues pour la PAC. Et là, je pense à tous les bosserons et à tous les gens qui font de la culture d'oléagineux, de colza ou de choses comme ça, qui cherchaient des débouchés, mais également le lobby OGM derrière, qui ne réussissant pas à convaincre les gens que les OGM c'était bon pour la santé, qu'il allait falloir nourrir la planète, on finit par dire, ah ben finalement on a un nouvel argument, les OGM on s'en fout, on peut en faire, c'est pas un problème, faisons des OGM pour créer de l'agrocarburant. Et ça a été extrêmement important. Et les politiques, le problème des politiques, qu'il y a un moment aussi, il ne faut pas être trop poujadiste, c'est qu'effectivement, ils sont pris de vitesse par des types qui ont les moyens de foutre des cabinets d'études et d'arriver avec des dossiers bétonnés. Le politique, lui, il a, on va dire, allez, je prends un exemple concret, une semaine, 15 jours, il est comme nous, il n'a pas forcément la compétence, donc lui-même va déléguer, va dire à son cabinet, vas-y, occupe-toi de ça. Ils ont toujours une longueur de retard.
Mais je dis
sur
pas
l'étude,
que c'est de sa faute.
Sur la décision. Donc le politique, aujourd'hui, il est largué autant que le citoyen, je pense,
pour
même
moi,
au stade où on en est.
Mais c'est ça, mais moi, il y a quelques années encore, mais bon, je me méfiais déjà, mais il y a quelques années encore, je pensais que les gens qui nous dirigeaient étaient quand même plus réfléchis que le citoyen moyen, parce que c'était leur boulot, si tu veux, et qu'ils avaient plus de temps pour Eh ben non, c'est pas vrai.
Mais maintenant, ils n'ont plus de prise sur le temps,
Ils sont... Et comme toi, tu vois, tu as pris cette... C'était pas à toi de réfléchir, on t'a dit c'est vachement bien.
L'offre
moi aussi, je trouvais
bonne.
Que c'était vachement bien, cette histoire de biocarburant. C'est pas à toi, moi,
qui bossons 400 euros, hein,
8
attends,
ou 10 heures par jour à se poser la question de l'énergie mondiale du machin. On n'a pas le...
Un kit éthanol, ça coûte 400 euros, t'économises 20 euros par plein. Tu fais le calcul comment dans ta tête, toi? je suis désolé, mais des questions purement économiques, tu te dis, ah putain, 20 plans, je l'ai amorti, c'est pas si simple parce qu'il y a surconsommation et ainsi de suite. Mais sorti de ça, grosso modo, en 2 ans, le kit.
Je pensais pas que c'était pas cher, entre guillemets, à ce point-là.
Ah non, mais c'est de la folie. En 2 ans, bon, ça pose des petits problèmes de carburation. Par contre, on gagne en puissance, donc c'est l'éthanol, c'est un peu plus. Ça fait mieux réagir le moteur que l'essence. Donc, grosso modo, le problème, c'est que derrière, on a une petite surconsommation de 15 à 20%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vrai, grosso modo, on gagne pas tant que ça, mais on gagne quand même. Mais c'est de l'ordre de 15 euros par plein d'économie, des 15 à 20 euros. Au prix de l'essence aujourd'hui, attendez, je vous garantis
mais
qu'il
bon,
y a...
comme c'est pas bien, comme c'est pas bien, faut pas le faire. Voilà.
Non, mais, voilà, mais on comprend que c'est la raison économique, là, et pourtant je me définis comme quelqu'un qui fait attention à mon environnement, choses comme ça, ben, comme quoi le citoyen lambda, mais malheureusement, qu'est-ce qu'il regarde? Il se dit, punaise, je vais faire 15 euros par plein d'économies, et c'est ça qui m'a amené à cette solution. Désolé, c'est pas la bonne. Alors, ça me fait rebondir sur un truc, par rapport par exemple au photovoltaïque ou à l'éolien, comment il fait le consommateur lambda? Le type qui a sa maison, ou le citoyen lambda, j'aime pas le mot consommateur, le citoyen lambda, comment il fait pour faire un choix? Est-ce que je fais le choix de l'eau? Est-ce que je fais le choix du photovoltaïque? Est-ce que je fais le choix de l'éolien? Si on devait définir une priorité pour les mois ou années qui viennent, ou une priorité par facilité d'équipement, puisqu'il ne faut pas toujours tout ramener au coût, qu'est-ce qui vous semble être la solution la plus intéressante aujourd'hui pour commencer à mettre un pied dans des solutions alternatives?
Déjà de faire le point. C'est-à-dire, à mon avis, parce que là, on ne peut pas donner une règle générale pour tout le monde. Chacun va mettre ses priorités en face de ses réels besoins. C'est-à-dire, pour un, ça va être l'eau. Pour l'autre, ça va être d'abord l'éolienne. Pour l'autre, ça va être l'isolation.
Est-ce qu'il y a des solutions plus accessibles que d'autres? C'était ça, la question.
Non, elles sont toutes du même ordre. Le truc, c'est d'essayer de mettre en graduation toutes tes priorités, tes fondamentaux. Quels sont-ils? Est-ce que je l'attaque d'abord les panneaux solaires ou l'eau? Mais bon, en règle générale, quand on construit, c'est un peu tout en même temps.
Est-ce que c'est pas isolé d'abord la solution?
C'est déjà commencé à
la vraie économie, c'est l'énergie que tu ne dépenses pas.
Avant d'aller dans les énergies alternatives, est-ce que la première réflexion à avoir, c'est comment on peut dépenser moins?
Mais bien sûr.
Vous savez la fameuse phrase dépenser moins pour gagner plus? Non, mais c'est de ce niveau-là finalement, parce que la logique, elle est là pour l'avenir, c'est dépenser moins pour gagner plus.
Et là aussi, il faut que les gens aujourd'hui soient vraiment autonomes dans leur pensée déjà, ne regardent
pas. C'est pas facile.
Ce qui est très difficile parce qu'on est matraqué avec des tas de conneries tout le temps les isolants. Non, mais c'est vrai.
Non, mais je rigole parce qu'il y a des gens qui voient des nains partout. Marie, elle voit des conneries partout.
Mais non, mais je suis dans la réclame. Alors les conneries, j'en vois passer à longueur de journée.
Tu les vends même,
si tu veux. Je les vends, les conneries.
Tu vends les conneries.
À les vendre. Ouais. Et donc, il faut vraiment que chacun se saisisse. Arrête de penser que le commerçant du coin ou sur Internet, etc., a la réponse, parce qu'il est au même niveau que nous, il a besoin de faire du fric. Moi, excusez-moi, je suis désolée, Gilles vient de se mettre des lunettes de
soleil. Je te l'avais promis.
C'est Gainsbourg après la musique. Bon.
Mais je crois qu'on n'a pas tous les mêmes fondamentaux. On ne les organise pas tous de la même
façon. C'est clair, on n'a pas les mêmes priorités.
Donc à partir de là, si tu veux, je pense sincèrement que l'organisation de tes fondamentaux, on ne peut pas faire de règle générale. Chacun va les mettre à la queue-leu-leu, dans ses moyens, dans ses capacités, etc.
Ah, mais on n'a pas la prétention de faire des règles. On ouvre des pistes.
Le seul truc, c'est que dans toutes ces réflexions, j'ai presque envie de dire, essayons de mettre un peu d'éthique. Tu vois, pour reparler des biocarburants, moi je veux bien, mais si au départ on t'avait dit oui mais attends, prends le temps de réfléchir, la terre c'est quoi, elle est faite pour te nourrir ou c'est juste un support?
Oui, mais c'était pas toi, de réfléchir à ça, bien sûr.
Si.
C'était super compliqué de définir sur les biocarburants que ça allait être un truc qui était pas bon, franchement c'était pas...
J'ai pas poussé l'étude là où Gilles
s'est arrêté à une démarche
économique
soyons francs, 80% de tous les Français.
Et ça, Jean, il aimerait bien que justement de faire évoluer en disant attention, tout n'est pas économique. Bon, après, on fait en fonction de ce qu'on gagne aussi.
J'entends bien.
Quand t'as pas de thunes, tu...
Mais l'écologie, c'est aussi un petit peu d'effort, quoi. C'est pas obligatoirement, ça doit pas être obligatoirement une solution financière correcte ou facile. Tu vois ce que je veux dire?
Je reviens à l'analyse.
Je veux pas dire que ça
coûte cher, l'écologie. Être écolo aujourd'hui...
Non, c'est pas vrai, pas obligatoirement.
Si ça coûte pas cher en argent, ça coûte très cher en temps et en énergie.
Là, je suis d'accord.
Et là, on est mal aidé. Là, on est mal aidé, effectivement, pour structurer les études. Parce que faire une étude, c'est pareil. À moins d'être du métier, c'est extrêmement compliqué de définir, finalement, d'abord de se regarder avec du recul, de définir, bon, moi, une fois que je vais chauffer, parce que je veux que mes enfants n'attrapent pas froid, une fois que je veux un peu d'eau chaude pour ma douche et que je veux de l'eau potable sur mon robinet. et que ma voiture j'en ai besoin pour rouler et que ma télé il faut que je laisse pas la veille. Bon, les gens ils sont noyés par ça aujourd'hui. Il y en a pas mal qui sont en apnée et leur première solution c'est de se rendre compte qu'ils chauffent plein pot parce que la maison n'est pas isolée. Donc effectivement il y a des choix qui sont quand même là. On peut dire aux gens clairement, si vous avez des thunes à mettre quelque part, commencez par isoler la maison le mieux possible parce que ça c'est vraiment une clé. On le voit d'ailleurs dans les nouvelles règles thermiques, ce qu'on appelle les RT quand on fait des constructions. Par exemple la RT 2010 pour parler de la dernière.
Il faut arrêter.
Non Marie, faut pas tout arrêter. Bah, j'ai été confronté au problème.
La RT
c'est quelque chose de très bien. On fait des maisons aujourd'hui qui sont
normes,
extrêmement bien faites.
Les bâtiments basse consommation.
Oui.
Yahoo quoi. Tu sais quoi, ma mère a investi dans un petit bâtiment basse consommation récemment. Je regarde les isolants, les trucs, et puis si tu veux, là aussi ma maman, elle est comme toi, elle est comme moi. Elle est de l'extérieur, elle n'a pas forcément une culture sur c'est quoi les techniques isolantes. Alors elle s'est dit, oh bah, je vais acheter un bâtiment comme ça, enfin dans un immeuble. Et en plus, c'est bien, c'est bien pour la planète parce qu'on mélange tout, tu vois. Ah ouais, c'est bon quoi. Bah, l'isolant, c'est quoi? Bah, c'est du bon parpaing, puis derrière, avec une bonne vieille couche de polystyrène enduite avec. Sauf que ça s'appelle complexe multi-BBC.
Ouais.
Et ben c'est de la merde.
C'est de la merde à quel niveau tu veux dire?
Effectivement.
À respirer, à quoi c'est de la merde?
Correctement isolé. Ouais. Qu'un bâtiment qui le serait moins,
ouais.
Mais au point de vue écologique, mais c'est dégueulasse, quoi. Mais on a fait un mix dans BBC, quand on dit BBC, par exemple, on sent que c'est écolo. C'est pas vrai.
Attention, de pas devenir non plus des espèces de fachos de l'environnement. Et là, il faut bien, à mon avis, comprendre que moi, perso, Marie, je préfère nettement un bâtiment qui reste, par le choix des technologies utilisées, polluant dans le sens où il y a des cols, dans le sens où il y a des parpaings, des ciments pas propres, des machins, des trucs. Mais qu'on le veuille ou non, dans la démarche, on progresse puisque le bâtiment en question va faire bouffer globalement moins d'énergie. Est-ce que l'écologie, tu crois qu'on va basculer de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui directement à quelque chose d'idéal ou qu'on va y arriver par couche à la prise de conscience ?
Par contre, ce qui est pénible, c'est que les solutions d'isolation écolo, elles existent, elles sont là. Et par contre, tu ne voulais pas qu'on reparle des industriels, mais il est évident que ça va à l'encontre des intérêts. On revient toujours
bien
à la même
sûr,
chose,
bien
des
sûr.
Intérêts des industriels. Et donc, tu fais la même chose, sauf qu'il faut que tu te prennes la tête pour savoir comment tu vas, au lieu de mettre ta saloperie de polystyrène injectée de polyuréthane de merde, peut-être une couche de paille, une couche de laine. Ici, on a une denrée, la laine. C'est hallucinant, il devrait déjà y avoir un truc de recyclage de la laine de nos lacones. C'est les Japonais qui nous l'achètent pour faire des matelas. Bon, voilà. Mais par contre, le petit gars, comme toi et moi, il n'a pas accès à ça et c'est très compliqué de le faire.
Je reviens au problème de l'étude. Extrêmement compliqué l'étude. Aujourd'hui, on fait tous pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet, on va dans des forums. Les forums, ils sont torpillés par des professionnels camouflés. Vous imaginez bien la gueule du mec de Saint-Gobain à qui on va dire faut pas mettre de la laine de verre, c'est pas bon. Bah, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le chiffre d'affaires qui se casse la gueule. Donc, il envoie du monde sur les forums pour dire mais non, mais c'est pas vrai, la laine de verre, c'est vachement
c'est
bon.
Super propre.
Mais à la fois, moi, j'ai rencontré des intégristes écolos ayant mis en œuvre une maison en bois, des mecs qui m'ont dit oh là là, mais j'espère que tu vas pas mettre, toi t'es écolo, t'as fait une maison bois, tu vas pas mettre de la laine de verre. Et là j'ai répondu désolé les cons, je vais mettre de la laine de verre. Et on m'a dit pourquoi? Je dis pourquoi? Parce qu'elle est prise en sandwich derrière un pare-vapeur épais de 5 mm par laquelle on ne peut pas avoir de déperdition cette laine de verre. Je vais m'embêter à mettre un truc 3 ou 4 fois plus cher sous prétexte que c'est écolo. En termes d'isolation, ça ne changera strictement rien. Et ma laine de verre, je ne peux pas la respirer vu la conception de la maison. Donc il y a un moment, il faut faire gaffe aussi aux intégrismes
Gilles,
qui nous encouragent à passer.
Et tu sais
de...
quoi, pourquoi tu as choisi de la laine de verre aussi, Gilles?
Parce que je devais répartir les coûts.
Parce qu'à un moment, en France, on a accès à que des trucs merdiques, pas chers. Et que les trucs bien, eh ben, ils sont extrêmement chers parce qu'ils sont...
Mais t'as des laines de verre écolo, t'as des laines de verre aujourd'hui composées,
aussi,
certaines qui viennent d'Allemagne et qui sont à 98% biologiques. Et des laines de verre bio, ben oui, ça existe.
Faudra donc, que je regarde. Hein.
Tu vois, il y a des flips, il y a des espèces...
Les dernières laines de verre dont j'ai fait la publicité, il est marqué... Il est marqué, pour ne pas citer, c'est la ligne de verre G3 d'Isovert, dans un magnifique packaging vert qui dit que c'est bien pour la nature. C'est la même laine de verre qu'avant, sauf qu'ils ont changé le pack. Je me méfie. Il faut vraiment après aller regarder dans ce que tu vois.
C'est vachement compliqué pour le citoyen lambda,
mais
si tu veux.
Il a pas...
Donc tu fais des choix. Tu fais des choix. Et t'as choisi de mettre un récupérateur d'eau, t'as fait le choix machin, mais peut-être que si tu fais ce choix-là, tu vas être obligé de mettre de la laine de verre, parce qu'on ne peut pas, c'est le problème, être économique partout, on ne peut pas être écolo partout, il y a des priorités, comme disait Jean.
Ouais, mais tu vois, ce qui me gêne dans ces histoires-là, c'est que c'est encore des priorités d'urgence. Là, tu vois, il fait froid, les gens ils vont dire, ouais, il faut faire ça, ça,
faut
ça,
isoler, ouais,
l'électricité. Cet été, quand il va commencer à faire bien chaud, ils vont dire « Ah oui, mais l'eau, là, il faut faire ça, 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 ça. » On ne peut pas mener tous les, les, les chantiers de front. C'est-à-dire mais que voilà, quand je dis prendre son temps, avoir un peu d'éthique, c'est-à-dire, bon, bah voilà, tu te dis, cette année, je vais avoir une action sur... Alors, je ne sais pas, ça peut être l'isolation, ça peut être effectivement des panneaux, ça peut être de l'eau, etc. Mais d'essayer d'avoir une continuité dans ton action. C'est-à-dire, si tu ne pourras pas mener tous les fronts en même temps. Moi, j'imagine le pauvre gars qui veut construire, qui d'un coup veut une maison passive avec des panneaux, plus de l'autonomie en eau, plus ceci, plus cela. C'est, à moins de se faire aider, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Alors... Donc, prenons le temps de réfléchir aux choses. On se dit, bon, bah, par exemple, là, aujourd'hui, je suis sur le réseau RDF, ok, etc. Je me donne 10 ans pour essayer de trouver une autre solution.
Une transition, hein, ouais.
De transition. Et puis, bah, tu prends le temps, tu réfléchis, mais tu avances chantier par chantier.
Mais les choses sont très longues en réalité. C'est ça qu'il faut faire bien comprendre, qu'on ne fera pas tout pour des questions évidentes du jour au lendemain.
Et puis aussi de temps, quoi. Il faut avoir le temps de tout mener de front, on ne peut pas.
Et, Marie. Mais il a dit super, quelque chose de super important, tu as dit passif, et tu as dit, les gens, effectivement, ceux qui construisent, hein, je ne parle pas pour les habitats existants, ceux qui construisent, il faut qu'ils prennent le temps de se poser les fesses sur leur terrain, de regarder. D'où vient le soleil ? Est-ce qu'il y a des arbres ?
Mais ça a beaucoup évolué déjà.
Est-ce que les vieux d'à côté,
oui, non, ça,
où est-ce qu'ils ont construit ? Non, mais ça, tu prends, ça te fait gagner déjà. Si ta maison est bien orientée et qu'elle est protégée des vents, c'est bon, ta facture,
tu la divises par deux. Ce que tu dis est important, mais il faut, à mon avis, tu vois, il parlait d'échelle de temps, Jean, et je pense que ça, c'est vraiment un critère important. Si on regarde bien, en 10 ans, si on se retourne sur les 10 dernières années, le citoyen lambda réfléchissait pas au fait d'orienter sa maison plein sud. Ne réfléchissez pas forcément au fait d'avoir un toit sur sa terrasse qui empêche le soleil de rentrer en été, mais qui le laisse passer en hiver. On ne faisait pas gaffe à ce genre de choses.
Bah, les vieux le faisaient.
Regarde, oui, les faisaient. Donc on revient, on redécouvre.
C'est ça.
On redécouvre. Et finalement, aujourd'hui, je trouve que 10 ans après, finalement, les mentalités ont déjà pas mal évolué, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Mais il y a une histoire d'échelle. En réalité, il faut des générations pour changer un mode de fonctionnement. Ça, faut accepter cette idée-là.
Il faut que l'offre
sinon,
change.
On devient intégriste.
Il faut que l'offre change.
Il faut que l'offre change. Maintenant, l'offre, si on l'offre pour l'individu, ce sera le dernier petit tour de table. L'offre pour l'individu aujourd'hui est extrêmement pauvre.
Oui, je suis d'accord. Oui.
Que ce soit dans le photo, à part dans le photovoltaïque finalement.
C'est pas que ce soit pauvre, c'est que c'est pré-mâché. C'est-à-dire qu'on te fait une offre qui est globale, mais qu'on te fait à toi, mais qu'on fera exactement la même au voisin. Alors que tes besoins ne peuvent pas être identiques à ceux de ton voisin.
Est-ce que c'est aux gens qui font l'offre
globale, je supporte pas.
Est-ce que c'est aux gens qui font l'offre dans ce cas-là de prendre une responsabilité sur l'étude à côté des gens, mais c'est un coût. C'est un coût. Donc il y a un coût d'étude forcément, parce que un professionnel finalement son taf ce serait d'aider les gens à faire une étude. C'est pas la vocation de tout à chacun de faire une étude.
Non, mais enfin moi je vois quand j'ai des gens qui viennent me poser ce genre de questions, effectivement je vais les aider, je vais les orienter, mais ils ont aussi une part de responsabilité dans l'étude. Ils vont avoir des choses à fournir quoi. C'est pas, tu peux pas confier toute l'étude à quelqu'un quoi. T'es obligé d'être un acteur de cette étude. Tu vois, c'est pas quelque chose que je vais faire dans mon coin et après donner au client, c'est pas possible. C'est quelque chose que je fais avec le client. Et il va être très, comment dirais-je, il est obligatoirement imprégné dans la démarche.
Jean, dans tous les cas, on va déjà dire aux auditeurs clairement qu'il y aura un autre volet à cette émission, puisqu'on traitera aussi, on continuera, c'est adorable, on parlera du photovoltaïque, on parlera de l'éolien, c'est vraiment un sujet fondamental. Il y aura des semaines, mais on les prendra. Et bien finalement, tu sais quoi, plutôt que de parler de leur connerie de campagne électorale, on va parler de ça et je suis convaincu que tout le monde va s'y retrouver.
Ouais.
Merci beaucoup d'être venu.
C'est moi.
Marie, je te fais un bisou avant de nous quitter quand même. Ce week-end, vendredi, musique partie 3 au commerce, et je peux pas ne pas en parler parce que je rappelle que c'est une manifestation gratuite, je rappelle que vous avez 35 musiciens, 7 groupes, je rappelle qu'il y en a absolument pour tous les goûts, que ça démarre à 5h l'après-midi. Je vais citer quand même rapidement les groupes qui viennent bénévolement, et c'est pour les remercier à l'avance, Bobok, Les Jeunes, Caméléon, Solenka, Les Nanacondas de Camarès, Point Barre avec des compositions, L'Atelier de Percu du pote Carlucci, Anjou Nabi qui vient de Millau, il y a des groupes de Rodez. Venez faire la fête au Com vendredi soir, ça va être une belle Java.
Ouais.
Le Com, c'est le commerce. Hein.
C'est le commerce. Ouais. Voilà, ça démarre à
17h. C'est la combien, 17e édition ?
C'est la troisième.
Troisième déjà ?
Troisième édition de Musique Partie qui a lieu tous les deux ans. Voilà, et on remercie évidemment. On n'a pas l'habitude de citer les marques, donc on ne les citera pas, mais on remercie nos autres.
Gilles a promis qu'il se mettrait nu pour l'occasion.
Enfin, voilà, ils vont partir en courant. Ouais. On vous fait des bisous à toutes et à tous. On vous dit à la semaine prochaine et puis merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on vient à vous.
J'avais oublié, il dispense en amende.